tradition chrétienne au XIXe siècle. On était arrivé la dernière fois aux missions catholiques et l'esprit de concurrence qui animait justement catholiques et protestants au niveau de la mission. Les catholiques ont été handicapés par rapport aux protestants par le fait qu'ils prônaient pour leur clergé le célibat. Et le célibat, évidemment, c'était un grand obstacle, notamment pour les Africains. Déjà, le problème de la polygamie était un problème suffisamment important, sans qu'on aille encore ajouter le problème du célibat. Néanmoins, les catholiques ont connu dans certaines régions un certain nombre de succès. Ce fut le cas, par exemple, en Ouganda, où jusqu'à ce jour, il y a deux catholiques pour un protestant. En 1899, au Kenya, au Tanganyika, c'est-à-dire la Tanzanie actuelle, et puis dans les pays qui étaient colonies catholiques, bien sûr, ils ont eu une part prépondérante, puisque par exemple en Angola ou au Mozambique, qui étaient deux colonies portugaises, le gouvernement portugais catholique interdisait toute autre activité que celle de missionnaires catholiques. Et de ce fait, il y a eu donc des pays qui ont été pratiquement fermés à la mission protestante, mais ces pays, notamment justement ceux qui étaient comme ça des colonies de pays catholiques, intolérants, n'est-ce pas ? La christianisation a été extrêmement superficielle. Par contre, les catholiques ont connu de grandes difficultés dans des pays comme le Sierra Leone, qui était par contre très ouvert aux protestants, et aux Dahomey. Ils ont eu plus de succès au Congo belge à l'époque, disons, c'est le Zaïre, mais enfin c'est plus le Zaïre depuis quelque temps, je crois que c'est redevenu le Congo, tant que je sache. Bon, pour les mêmes raisons, parce que le Congo était sous domination belge, était colonie belge, et les Belges, sans interdire les missionnaires protestants, favorisaient quand même considérablement la mission catholique. Au Cameroun, ils ont eu aussi du succès. Le Cameroun est un pays qui a été colonisé relativement tardivement. C'était au moment où l'Allemagne, l'Empire allemand, qui était issu donc de la guerre de 1870 plutôt, cherchait lui aussi à se tailler un empire. Un certain nombre de puissances européennes étaient arrivées en retard dans la course aux colonies et ont essayé de prendre un petit peu les miettes de ce qui restait. Ce fut le cas, par exemple, des Italiens qui ont dû se contenter d'un protectorat sur la Tunisie, sur la Libye et qui visaient l'Abyssinie, l'Éthiopie, n'est-ce pas, qu'ils ont conquise par la force en 1936, quand Mussolini est arrivé au pouvoir. Les Allemands eux-mêmes sont arrivés aussi en retard dans la course aux colonies et une de leurs possibilités a été justement de s'emparer du Cameroun qui était déjà passé par des vicissitudes diverses. Et là, il y a eu donc une pénétration catholique, bien que le Cameroun était officiellement colonie allemande, mais comme il y avait eu des puissances catholiques qui l'avaient occupé auparavant, les catholiques étaient là avant que le gouvernement allemand ne réagisse. Après la guerre, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été dépouillée de ses colonies par le traité de Versailles et le Cameroun est revenu à la France. Donc oui, c'est ça, il avait été sous l'influence belge, sous l'influence portugaise, puis sous l'influence belge d'abord. L'avantage a donc été donné aux catholiques, mais les progrès avaient été très lents. Et malgré donc ces éléments, on peut dire que les catholiques, un peu partout, ont été capables de rivaliser avec les protestants et parfois même de les surpasser. Mais ce qui était caractéristique des relations d'époque, c'est que ces relations justement étaient très très tendues. Pour les catholiques, le protestant était l'ennemi. Et beaucoup plus que le salut des indigènes, ce que recherchait la mission catholique, c'était de faire pièce à l'expansion du protestantisme. C'était la motivation première quand même. Pour ce qui est du monde orthodoxe, le monde orthodoxe a été beaucoup moins missionnaire que n'a été le monde chrétien occidental. Et l'orthodoxie a surtout cherché à évangéliser les populations qui étaient nouvellement conquises en Asie centrale. S'il y a eu une colonisation importante donc des pays dits du tiers-monde aujourd'hui, n'est-ce pas, par les puissances occidentales, il y a eu un mouvement aussi de colonisation en Russie. Mais la Russie a poussé en quelque sorte ses pions vers l'Est. Et donc, notamment justement vers l'Asie centrale. Et là, de très très nombreux peuples sont arrivés, ont été amenés à... c'est 5 minutes, hein, il faut essayer d'arriver à l'heure, parce que ça perturbe. Hein, quand on arrive comme ça en retard, il faut essayer d'arriver à l'heure. Hein. Surtout que ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. Bien, alors donc, la Russie donc, a poussé ses pions vers l'Est et a essayé d'évangéliser les populations qui étaient des populations tout à fait païennes, les Tartares, les Ouzbeks, enfin toutes ces populations-là qu'ils ont conquises d'ailleurs en même temps que l'expansion de la Russie vers l'Est. Au début du XIXe siècle, l'impératrice de Russie, Catherine II, avait posé le principe de la liberté religieuse. Elle se voulait monarque éclairée, selon le principe des Lumières, n'est-ce pas ? Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, qu'elle avait autorisé l'installation de protestants allemands dans certaines régions de Russie, où ils sont restés jusqu'à ce jour. Elle a autorisé aussi des missions catholiques parmi les musulmans. Elle n'autorisait pas des missions catholiques parmi les orthodoxes, mais parmi les musulmans. Il y a eu peu de succès, parce que les musulmans étaient un peuple, et sont encore un peuple difficile à pénétrer avec l'Évangile, et les quelques convertis ont souvent apostasié. Au XIXe siècle, il y a eu un temps de renouveau de la piété orthodoxe, qui va de pair d'ailleurs avec le renouveau qu'il y avait dans les pays protestants, dans les pays catholiques. Et il y a eu en particulier tout un élan mystique très important, un renouveau des monastères, à cette période-là dans l'orthodoxie russe en particulier, de telle sorte que est apparu aussi, plutôt c'est poursuivi, ou plutôt inconnu, un renouveau de ce qu'on appelait le mouvement des tsarets, c'est-à-dire des hommes du peuple qui se levaient, n'est-ce pas, et qui, inspirés par l'Esprit de Dieu, souvent quittaient tout d'ailleurs et partaient évangéliser. C'était des gens qui avaient une vision très très mystique et qui étaient réputés comme des faiseurs de miracles, priaient pour les malades, ils étaient dépositaires de révélations, vous venez les consulter pour découvrir un certain nombre de choses cachées, etc., etc. Et c'est tout à fait intéressant de noter, n'est-ce pas, qu'à la fin du siècle, c'est au milieu de ces starets, c'est dans le cadre de ce renouveau de la piété orthodoxe qui marque le XIXe siècle, que va naître le mouvement de Pentecôte. Des hommes de Dieu inspirés par l'Esprit, il y a toujours eu dans l'orthodoxie la foi que le Saint-Esprit pouvait intervenir, inspirer, donner des dons de guérison, des dons de prophétie, des choses comme ça, des dons de glossolalie, n'est-ce pas, c'était pas rare. Et au XIXe siècle, parmi justement les couches populaires, dans les monastères les plus évolués au point de vue théologique, il y a eu justement un mouvement de ce type-là. Et en même temps, donc, les Tzarets ont entrepris un mouvement d'évangélisation et notamment de mission parmi, justement, les peuplades nouvellement conquises. Un certain Bantourevski, 1820-1881, a été à la tête de ce mouvement missionnaire, de même qu'un certain Glushman, qui ne devait pas être certainement d'origine russe à cause de son nom, qui était en 1892 et qui était le fils d'un prêtre. Il a écrit une histoire de l'Église à 25 ans et ensuite a consacré le reste de sa vie à deux choses. D'une part, il a découvert le piétisme occidental et il l'a intégré dans l'orthodoxie. Donc il a été un des pères de ce mouvement du renouveau de la piété orthodoxe et ensuite a entrepris aussi des missions d'évangélisation à l'Est. En 1819, Il prend un nom de moine et il se fait nommer Macari à partir de là. Et il va devenir notamment l'apôtre des Esquimaux au-delà du cercle arctique, l'extrême nord de la Russie. C'était un homme qui était réputé pour avoir un grand respect pour les populations qu'il allait évangéliser. Il savait les écouter, il savait être proche d'eux, il savait vivre comme eux. Et c'était un homme qui avait un grand respect pour la Bible. C'était un grand défenseur de la Bible, il prêchait la Bible. On peut penser qu'il était charismatique, même si sa biographie ne le dit pas véritablement parce que l'auteur de ses biographies ignorait la vie charismatique. Enfin, disons, ce que l'on peut lire de lui semble montrer qu'il avait effectivement une dimension de ce type-là. Et il a ouvert le chemin à tout un ensemble de missionnaires qui sont allés évangéliser ces populations de l'extrême nord russe. Il y a ensuite un anglo-saxon qui pourtant est né près d'Iskoursk en Sibérie. Il se nomme John Westminster, c'est un nom très russe comme vous voyez. Il est né en 1797, il est mort en 1879. Il épouse en 1821 la fille d'un prêtre. Vous savez que les prêtres orthodoxes se marient, donc ce n'est pas du tout étonnant qu'il puisse épouser une fille de prêtre, et lui-même se fait ordonner prêtre orthodoxe. En 1825, son évêque lui demande d'aller évangéliser les populations des Aléoutiennes. Les Aléoutiennes, qui à cette époque-là étaient russes, de même que l'Alaska. Vous savez que l'Alaska était russe, et finalement, elle sera vendue aux États-Unis pour une bouchée de pain d'ailleurs. Et là, chez ces Esquimaux, plus exactement des Aléoutiennes, ils trouvent des gens qui sont chrétiens de nom. Il y a eu une certaine connaissance de Dieu, mais des gens qui n'ont pas véritablement la connaissance de Dieu, et notamment qui sont sous une très grande conviction de péché. Et là, il va faire une œuvre absolument magnifique chez ces gens. Il va y avoir un véritable réveil qui va avoir lieu dans ces îles Aléoutiennes. En 1840, après la mort de sa femme, il devient moine, puisqu'il ne peut plus se remarier. Vous savez que le prêtre orthodoxe peut se marier une fois, mais si sa femme meurt, il ne peut pas se remarier. Au nom du texte de Timothée, il faut qu'il soit mari d'une seule femme, hein, d'où l'expression « soyez comme la femme d'un pope ». Il devient moine, et puis de là, évêque. Souvent, les évêques orthodoxes, qui, eux, n'ont pas le droit de se marier, sont recrutés parmi les moines, parce que, précisément, les moines aussi ne sont pas mariés. Il est nommé, donc, évêque des Aléoutiennes, des Couriers, et il continuera, jusqu'à son dernier souffle, à prendre son bâton de pèlerin et aller évangéliser lui-même ses nombreux peuples, tout évêque qu'il est. De là, il se rend au Japon, et son but est d'évangéliser la Mandchourie. Mais il se heurte à l'opposition des autorités politiques du lieu. Et donc, il retourne. Il retourne en Russie à 70 ans. Il se retire dans un monastère et démissionne de sa fonction d'évêque. Mais il est tellement réputé pour sa piété qu'à la mort du patriarche de Moscou, on vient le chercher dans son monastère pour le nommer patriarche à la place de celui qui est décédé. Et il va donc occuper cette fonction pendant 11 ans encore. C'est lui qui donc va fonder en 1870 la Société missionnaire orthodoxe, qui existe encore de nos jours. Là, outre les régions de l'Est, la Société missionnaire orthodoxe va viser la Chine et le Japon. Et le premier missionnaire qui est envoyé par la société est un moine qui se nomme Nikolai et qui va réussir à établir dans ces deux pays des missions orthodoxes. Lui-même deviendra archevêque en 1906, archevêque de Chine et du Japon. Mais en fait, cette évangélisation orthodoxe hors des frontières de l'empire russe, disons, hein, c'est un empire finalement qui est tagué, un empire colonial qui va être, lui, intégré à la mère patrie parce qu'il a des frontières communes, finalement, avec la mère patrie, contrairement à ce qui est le cas pour les empires coloniaux des autres puissances. Et de ce fait, n'est-ce pas, à part l'évangélisation qui va avoir lieu dans ces pays-là, En dehors des frontières de la Russie, de l'Empire russe, c'est-à-dire en Chine et au Japon en particulier, il n'y aura pas de véritable mouvement de masse. Et aujourd'hui, il reste peu de choses de cet effort qui a été effectué par la société missionnaire orthodoxe. Avec ce rapide survol justement de la mission catholique et orthodoxe au XIXe siècle, nous avons terminé l'étude du XIXe siècle. Nous allons entamer donc un nouveau chapitre qui est l'étude du XXe siècle. Le XXe siècle qui se finit, c'est tout à fait approprié de parler de ce thème maintenant, n'est-ce pas, puisque encore 7 mois, le siècle sera terminé. Et c'est donc le moment idéal pour faire un bilan de ce siècle. Le bilan du XXe siècle, sur le plan de l'histoire de l'Église, est un bilan très mitigé. On peut le diviser en deux grandes périodes. Deux grandes périodes et ensuite des sous-périodes, si vous voulez. Deux grandes périodes qui coïncident à peu près avec la moitié du siècle. La première moitié du siècle, jusqu'aux années 50-60, où on voit, en quelque sorte, une continuité par rapport au siècle précédent, au XIXe siècle. C'est-à-dire que l'élan missionnaire se poursuit, même s'il se ralentit. Et il se ralentit pour deux raisons. La première, parce que, d'une part, les États colonisés s'affranchissent du colonialisme et en même temps ont tendance à voir dans la mission un instrument des puissances colonialistes. Et, heureusement, la mission saura faire à temps son aggiornamento et créer des églises nationales. Mais il faudra vraiment que les événements les y poussent. Si bien que le bilan va être globalement positif. Poursuite aussi du XIXe siècle, dans ce sens que les réveils qui ont marqué le XIXe siècle vont se poursuivre, voire même s'amplifier dans la première moitié du XXe siècle. Et notamment, la première moitié du XXe siècle va voir l'expansion d'un extraordinaire mouvement religieux qui est sans équivalent dans l'histoire de l'Église, si ce n'est au premier siècle, le mouvement de Pentecôte, avec ses dérivés, le mouvement charismatique et tout ce qui touche justement à ce mouvement. Donc, une certaine vitalité de l'Église. Puis, un autre mouvement tout à fait typique du XXe siècle, c'est le mouvement œcuménique. Les cassures qui avaient marqué le XVIe siècle, et même, si on remonte encore plus haut, le XIe siècle, vont soudain apparaître comme anachroniques, dépassées, contraires à la volonté de Dieu. Et ça et là, un certain nombre d'hommes vont tenter de secouer leurs appareils religieux respectifs pour tenter de réparer justement les différentes brisures. Et une des grandes marques de l'Église du XXe siècle va être justement cet idéal œcuménique qui va, pour certaines d'entre elles, devenir, on pourrait dire, presque l'unique raison d'être. Avec donc ces bilans positifs et négatifs, ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. Puis, il y a une deuxième période qui correspond grosso modo avec la deuxième moitié du siècle, dont le tournant est en fait véritablement les années 60-70, qui est le mouvement de déchristianisation. Le mouvement de déchristianisation, il a commencé très tôt finalement. Il a commencé avec la Renaissance, on peut dire. La Renaissance, retour aux sources, c'est-à-dire aux sources de l'Antiquité païenne, était un mouvement de contestation de l'Église qui ne disait pas son nom. L'Église étant trop forte à cette période-là pour être attaquée de front, on a en quelque sorte essayé de biaiser, de développer les arts, les sciences, etc. Mais les hommes de la Renaissance, les promoteurs, ceux qui ont lancé le mouvement de la Renaissance, avaient quand même l'Église catholique dans le collimateur. L'Église catholique elle-même ne s'y est pas trompée. Et avec beaucoup d'habileté, elle a su récupérer le mouvement à son profit. Et l'Église catholique du 15e, du 16e siècle, même du 14e siècle, disons, a été une de celles qui a promu le plus, en quelque sorte, la Renaissance. N'importe, le ver était dans le fruit. Et les excès de l'Église catholique dans ces siècles, la réforme a été aussi un coup terrible pour préparer la déchristianisation. Parce que ça a entraîné, pour un certain nombre de gens, notamment dans les pays qui avaient été le théâtre des guerres de religion, et en particulier la France, n'est-ce pas, une relativisation des choses religieuses. Et finalement, beaucoup de gens se sont dit, bien si les uns les autres se battent et commettent des excès, après tout, on se demande qui a raison, mais finalement, est-ce qu'ils ont raison les uns les autres ? Et finalement, est-ce que tout ça, c'est pas tout simplement du fanatisme sans fondement ? Et la France, par exemple, qui a été le champ de bataille par excellence, puisqu'elle se trouvait géographiquement placée à la ligne de fracture entre le nord de l'Europe protestante et le sud de l'Europe catholique, eh bien, la France a été le premier pays marqué par la libre pensée et par la déchristianisation parce que, justement, il avait subi cette espèce de traumatisme des guerres de religion dont il ne s'était véritablement pas remis. Après, donc, il y a au XVIIIe siècle les Lumières aussi qui sont la reprise de la Renaissance, si vous voulez, mais à une époque où déjà l'Église est affaiblie et on peut l'attaquer de front. Et c'est le déisme, et puis ensuite la Révolution française. Là, il y a une véritable tentative de déchristianisation. Le 19e siècle, les églises se ressaisissent, nous l'avons vu. Et là, la déchristianisation marque le pas jusqu'à un certain point. Par contre, il y a un secteur de la population européenne, d'une manière générale, où la déchristianisation se fait sentir énormément au XIXe siècle, c'est les milieux ouvriers. Le XIXe siècle est celui de la première révolution industrielle, et la révolution industrielle provoque deux choses. Premièrement, l'accroissement considérable des villes au détriment des campagnes. Les industries s'installent dans les villes et par conséquent, il y a un dépeuplement des campagnes, il y a un exode rural important. Deuxièmement, il y a création d'un prolétariat, voire même d'un sous-prolétariat, horriblement exploité par les patrons, n'est-ce pas, par les bourgeois qui tiennent en main la grande industrie et qui n'hésiteront pas à utiliser la religion pour asseoir leur autorité. La Bible dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres ». Par conséquent, toute révolte, toute tentative même de grève, n'est-ce pas, doit être brisée sans aucune pitié parce que c'est une révolte contre l'ordre divin. Et puis, ensuite, n'est-ce pas, non seulement il y a ce « Serviteur, obéissez à vos maîtres », mais également, la condition des ouvriers est terrible, comme on le connaît, les enfants qui travaillent dans les mines dès l'âge de 4 ans, tout en sachant qu'ils n'arriveront pas à l'âge de l'adolescence, ils mourront avant, n'est-ce pas ? C'est bon chrétiens, catholiques ou protestants d'ailleurs, n'est-ce pas, qui agissaient de cette manière-là, et qui, de toute façon, ce n'est pas un drame. S'ils ne sont pas heureux dans cette vie, ils seront heureux dans l'autre. Heureux les pauvres. Quelle chance vous avez, mes pauvres amis, quelle chance vous avez d'être pauvres. Vous allez avoir un paradis de gloire. N'est-ce pas ? Alors, rarement, à aucune autre époque de l'histoire, si ce n'est à la nôtre, justement, ici à la fin du XXe siècle, on a poussé aussi loin le cynisme, parce qu'on est en train de reprendre aujourd'hui les mêmes poncifs, sur un autre registre, mais finalement, c'est la même hypocrisie. Alors, on a assisté au XIXe siècle à une véritable révolte ouvrière qui va être marquée par le socialisme d'une part, puis ensuite par le communisme. des gens comme Proudhon, comme Jules Guest, comme bien entendu Marx ensuite, n'est-ce pas, Engels et autres, n'est-ce pas, vont en quelque sorte utiliser cette révolte qui naît spontanément de la part des ouvriers. On a déjà ça en France après la Commune, après la défaite de 1870, 1871. A lieu le mouvement de la Commune, qui est déjà un mouvement de révolte du prolétariat contre l'exploitation terrible à laquelle ils sont, de laquelle ils sont victimes. Et des gens comme Marx vont utiliser, n'est-ce pas, cette révolte. Non pas dans le bien des ouvriers, ça ils s'en fichent. Ça c'était... Un jour, Marx avait piqué une colère terrible contre ses disciples qui étaient venus dire « Mais enfin, la cause des ouvriers, etc. » Marx a dit « Mais la cause des ouvriers, ça ne m'intéresse absolument pas. Le sort des ouvriers qui crèvent, je m'en fiche. » Mais je vois là, dans l'exploitation des ouvriers et leur révolte, une force à canaliser, à utiliser pour la révolution. Ce qui m'intéresse, c'est la révolution. Si c'est pour cette révolution de supprimer et sacrifier des millions d'hommes, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est la révolution. Bon. Donc, naît le marxisme. Et le marxisme se veut athée. Et la révolution marxiste, la révolution qui est prônée par Marx et par, ses, et par d'ailleurs tous les gens de cette mouvance, aussi bien par les anarchistes, c'est pas avec Proudhon et autres, l'idée, n'est-ce pas, c'est que, enfin, c'est le slogan bien connu, ni Dieu ni maître. Dieu. Est une la religion est une invention des bourgeois pour asservir le peuple. Le fameux slogan aussi de Marx, l'opium du peuple, la religion c'est l'opium du peuple, c'est-à-dire la consolation avec laquelle on l'endort, on la rend capable d'accepter sa douleur, et c'était vrai, c'est pas... vous souffrez aujourd'hui, mais vous serez heureux demain. Vous serez heureux dans le paradis, n'est-ce pas? En attendant que vos enfants crèvent à l'âge de 10 ans, ça, nous, on s'en fiche. Du moment que l'argent rentre dans nos caisses, n'est-ce pas? Bon, donc c'est un opium. Et la révolution marxiste, la révolution socialiste et communiste, passe par la destruction de la religion. La religion est le frein essentiel qui empêche la révolution. Donc, il faut d'abord s'en prendre à l'opium du peuple qu'est la religion. Et lorsque le communisme s'installe en Russie en 1917, au moment de la révolution d'octobre, son premier soin va être la destruction de l'Église, notamment l'Église orthodoxe. Des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de prêtres orthodoxes vont être fusillés, sans autre forme de procès, simplement parce qu'ils sont prêtres. Les églises sont détruites, transformées en musées, en tout ce qu'on voudra, etc. C'est, pas c'est la mise au point du programme qui a été celui, justement, des communistes. Et précisément, là, se déchaînent des forces qui ont été préparées par les excès, justement, des églises elles-mêmes, n'est-ce pas, notamment de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe, qui étaient des églises d'État. Et en tant qu'Église d'État, ces églises... avait tendance à prendre le parti des pouvoirs, parce qu'en prenant le parti des pouvoirs, elle partageait le pouvoir avec elle. Par conséquent, là, les catholiques actuels reconnaissent qu'une des erreurs stratégiques majeures de l'Église catholique, et on peut dire la même chose de l'Église orthodoxe, peut-être pire encore que l'Église orthoxe, c'était encore beaucoup plus imbriqué avec les pouvoirs que ne l'était l'Église catholique, c'est pas, ça a été justement de ne pas s'intéresser au sort des ouvriers au moment, pendant le 19e siècle. Ils ont été pratiquement abandonnés. Du côté protestant, ça a été moins net. Si certaines grandes églises d'État, telles que l'église anglicane, évidemment, ont joué la même politique, eh bien, on sait, on a vu justement dans notre histoire de l'église du 19e siècle, qu'un certain nombre de chrétiens ont pris courageusement le parti des ouvriers, par exemple l'Armée du Salut avec William Booth, même John Wesley aussi, qui avait lancé des mouvements d'évangélisation populaire, la mission McCall, toutes sortes de mouvements du même type, n'est-ce pas? Aux États-Unis aussi, donc, il y a eu collusion de certaines églises, par exemple au moment de la guerre de sécession, qui a vu des grandes églises se ranger du côté des esclaves esclavagistes, mais aussi, n'est-ce pas, d'autres églises ont pris le parti justement des abolitionnistes, notamment des gens comme Finney, comme Moody, enfin toutes les églises évangéliques étaient pour l'abolition de l'esclavage. Et par exemple, vous savez que c'est une fille de pasteur qui a écrit le fameux roman La case de l'oncle Tom, qui a fait tant pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. C'était un best-seller qui a bouleversé la conscience de millions d'Américains que ce roman. Et ça a fait plus pour l'abolition de l'esclavage que tous les canons de la Fédération du Nord. Bon. Mais par contre, c'est vrai que dans les pays catholiques et orthodoxes, la situation était dramatique. Ce qui d'ailleurs explique en partie et en grande partie le fait que pendant le XXe siècle, le communisme s'est établi dans les pays catholiques ou disons catholicisants, si on prend la Russie orthodoxe, et pratiquement pas dans les pays protestants. Donc, si vous voulez, là, la révolution passe par la destruction de la religion. Et ce faisant, l'athéisme est devenu une doctrine. Et alors, le marxisme est une idéologie qui donne une explication globale du monde. Justement, en évacuant justement toute référence à la transcendance. Même si, en fin de compte, elle rétablit une transcendance que, d'ailleurs, on retrouve aujourd'hui dans les mouvements écologiques, hein, et qui, d'ailleurs, était héritée de la Grèce, on peut peut-être même s'en rendre compte. Si il y a dans la matière, puisque c'est le postulat de base du marxisme, s'il y a dans la matière une dynamique qui la pousse vers une organisation, qui la pousse vers une apparition de l'esprit, en quelque sorte, de la réflexion, de l'évolution. S'il y a un sens à l'histoire, puisque c'est finalement la base du marxisme, le marxisme, la révolution triomphera parce que c'est inscrit dans le déterminisme de l'histoire. Il y a un sens de l'histoire qui va vers l'établissement du communisme. Et tous les capitalistes du monde ne pourront pas s'y opposer. Un jour, le marxisme triomphera parce que c'est écrit. C'est écrit où ? C'est écrit dans l'histoire. Et qui a écrit ça dans l'histoire ? Ben, la matière. Si la matière est écrite dans l'histoire, que le communisme était inéluctable, ça veut dire la matière est Dieu. Et on retombe dans le panthéisme. C'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais enfin bon, pour les théoriciens du marxisme, ils ont l'impression d'avoir découvert quelque chose de tout à fait nouveau. Bon. D'autre part, on fait appel aussi au scientisme de gens comme Auguste Comte. On est à l'époque, au XIXe siècle, de la science triomphante. La science va pouvoir tout expliquer par les principes de causalité, n'est-ce pas ? S'il y a des choses qui sont inexplicables, c'est tout simplement que nos connaissances scientifiques sont encore insuffisantes. Mais dans 100 ans, quand on aura plus de connaissances scientifiques, on pourra expliquer. Et un jour, on expliquera tout. Bon. On en est revenu. Aujourd'hui, on sait bien qu'on a davantage de connaissances scientifiques qu'on en avait un siècle, mais qu'on connaît encore moins. Finalement, les grands savants sont presque arrivés au stade de Socrate, qui disait « je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien ». Bon, on n'a rien résolu, n'est-ce pas ? Et au contraire, plus on avance, plus les mystères sont nombreux. Mais enfin, à cette époque-là, on croyait. Donc, le matérialisme dialectique marxiste se veut scientifique, basé sur les découvertes de la science, la seule vérité est vérité scientifique. En dehors de ça, il n'existe pas de vérité. Alors évidemment, le marxisme est critiquable sur ce point. Il n'est pas cohérent avec sa théorie parce que justement, la théorie du matérialisme dialectique n'est pas lui-même une théorie scientifique démontrable. C'est une théorie philosophique. Enfin bon, on n'en est pas à cette contradiction près. Alors, le marxisme se pose comme une alternative au christianisme. Et, bien entendu, chez des masses opprimées, il va avoir un succès phénoménal. Et pendant notre siècle qui s'achève, n'est-ce pas, il a été une espérance pour des millions d'hommes, pour des millions d'opprimés dans le monde entier. Bon, à la fin de ce siècle, On sait qu'il a fait long feu, mais enfin, il a été cela. Alors, il ne reste plus que maintenant quelques nostalgiques. Mais enfin, le mal qui a été fait est fait. D'abord, parce qu'il y a eu des millions de morts, et notre siècle a été le siècle le plus sanglant de l'histoire. D'abord, à cause des deux guerres mondiales qui l'ont marqué, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, qui ont été des tragédies qui ont contribué à la déchristianisation, mais aussi parce que le marxisme a été lui-même horriblement meurtrier. Alors, et par contre, ce qu'il a laissé, c'est cette idée dans l'esprit des gens, dans l'esprit des masses, qu'on peut expliquer le monde sans recours à Dieu, sans recours de la religion. Et alors que finalement, les gens, même au XIXe siècle, ce qu'on appelait étaient déistes, hein, un petit peu dans la tradition des Lumières, là, maintenant, on a, pour la première fois dans l'histoire, un athéisme militant. Et même si le marxisme a disparu, l'athéisme demeure, n'est-ce pas ? Autre point qui va amener aussi la déchristianisation. Alors, ce qui est aussi terrible, n'est-ce pas, c'est que l'urbanisation aussi favorise cette déchristianisation, n'est-ce pas ? Vivre dans du béton, vivre dans un environnement antinaturel, vivre une vie antinaturelle, les 3-8, on travaille aussi bien de jour que de nuit, alors que bon, bah, jusque maintenant, même les esclaves les plus maltraités pendant l'Antiquité dormaient la nuit, tout simplement parce qu'on n'avait pas les moyens de s'éclairer, de travailler la nuit à cette époque-là. C'était peut-être pas parce qu'on était plus vertueux, mais c'est parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens. Donc il restait un petit quelque chose de naturel. Les esclaves du XIXe siècle, parce qu'on peut parler d'esclaves, hein, c'était des esclaves qui étaient payés, enfin qui étaient sous-payés, mais qui étaient bons. Mais c'était des esclaves, hein. N'avaient même pas ce reste d'humanité. Donc il y a eu un véritable abrutissement des masses, on peut dire. Ça, c'est quelque chose qui... Et alors, évidemment, parler de Dieu à des masses abruties, c'était difficile, bien que, évidemment, des gens comme Louis Ambus aient réussi à le faire. Bien. Autre élément qui j'ai évoqué il y a un instant, a provoqué la déchristianisation, les deux guerres mondiales. Les guerres mondiales vont être une terrible tragédie pour l'histoire de l'Église. Vous savez, ce les anciens appelaient l'avant-première guerre mondiale, les années 1900, le début du siècle jusqu'en 1913, on appelait ça la Belle Époque. Et tous les anciens qui ont vécu cette période-là, sont unanimes pour dire qu'à partir du lendemain de la Première Guerre mondiale, les choses n'ont plus jamais été comme avant. La vie a complètement changé, la qualité de la vie a complètement changé. Alors évidemment, quand on parle de la Belle Époque, on évoque un peu les valses de Vienne, la vie d'opérette d'Offenbach, etc. Bon, la superficialité, la légèreté, mais ce n'était pas seulement ça. Je me souviens de mon grand-père qui me racontait qu'avant la Première Guerre mondiale, il y avait les banques avaient des garçons livreurs qui livraient de l'or, des pièces d'or, n'est-ce pas, aux clients. Alors ils allaient à bicyclette, ils avaient une espèce de panier sur le devant de leur bicyclette, et pendant chaque course qu'ils faisaient, n'est-ce pas, ils laissaient leur bicyclette avec l'or, hein, comme ça, devant la porte sur le vélo. Ils allaient 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, une heure, discuter avec leurs clients, ils récupéraient leur vélo avec leur or. Après, personne n'aurait eu l'idée de voler l'or. Bon, ça nous fait rigoler. C'est plus pensable aujourd'hui. Bon. Donald G. écrit ça aussi, il dit la Première Guerre mondiale a été perçue par les pentecôtistes comme un signe eschatologique. D'ailleurs, il y a eu des événements au Proche-Orient qui les ont assis dans cette conviction-là, n'est-ce pas ? Et Dungy disait, tous ceux qui ont vécu ce qui s'est passé avant la Première Guerre mondiale sur le plan de l'Évangile, eh bien, disent qu'après la Première Guerre mondiale, c'était plus pareil. Le réveil de Pentecôte lui-même a été profondément modifié par la Première Guerre mondiale. Il a continué. Mais c'est comme si vous voulez, c'était une terrible vague qui soudain avait déferlé d'une manière impétueuse, et puis plus la vague s'avance, et plus elle s'affaiblit, quoi. Et on arrive à la fin du siècle maintenant où elle va refluant, la vague, quoi. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, la Première Guerre mondiale a été un tournant. Et là, après la Première Guerre mondiale, que s'est-il passé? Eh bien, une frénésie de plaisir. Après cette abominable hécatombe, même au niveau des chrétiens, n'est-ce pas, une frénésie de plaisir, et donc automatiquement, l'immoralité a commencé à les grandissant. L'immoralité, évidemment, ça fait en général assez bon ménage, ça fait pas bon ménage, au contraire, avec la foi. Hein. Et il y a eu un autre résultat, c'est que ici, c'était la guerre, en quelque sorte, la guerre horrible qui s'était poursuivie dans des conditions abominables. Il faut lire les récits des poilus dans les tranchées, vivant dans des conditions atroces, avec la mort qui était en suspens constamment, n'est-ce pas, les attaques à découvert, n'est-ce pas, les charges où les régiments étaient décimés presque jusqu'au dernier homme, quoi, hein. Certains régiments ont été complètement rayés de la carte. Par exemple, l'offensive Nivelle du chemin des Dames en 1916, Nivelle qui était un général protestant d'ailleurs, n'est-ce pas, en quelques heures, je ne sais pas si c'est pas 200 ou 300 000 hommes ont été massacrés, quoi, en quelques heures d'attaque, quoi. Bon, affreux, quoi. On ne peut pas s'imaginer ce qu'ont été les souffrances de ces poilus, n'est-ce pas, et des autres qui étaient en face, qui étaient dans les mêmes conditions et qui n'étaient pas pires que nous, hein. Parce que la propagande, là, a fait aussi son ouvrage, hein. Alors, je lisais quelques années de ça, n'est-ce pas, ces récits de d'attaques à les tranchées, par exemple, une espèce de mystique totale, la France, n'est-ce pas, la France, c'était presque une déesse, une divinité à laquelle on se sacrifiait, quoi. Hein. Alors, il y avait un lieutenant qui exhortait ses hommes avant l'attaque, disant, voilà, nous allons combattre les Allemands parce que nous sommes des hommes libres. Les Allemands ne sont pas des hommes libres. Propagande totale. L'Empire allemand était un État aussi démocratique que était la République française, si ce n'est qu'il avait un empereur. C'était une monarchie constitutionnelle. Il y avait un Parlement, le Reichstag. C'est exactement la même chose. Alors, il y avait une diabolisation de l'ennemi, le Prussien, n'est-ce pas, avec son casque à pointe, on faisait la guerre, on avait le droit de notre côté, enfin, on croirait entendre sa formation de midi, quoi. Aujourd'hui, nous avions le droit pour nous, n'est-ce pas, c'était la guerre fraîche et joyeuse, la baïonnette française faisait des ravages dans les rangs des Prussiens, enfin, c'était la propagande grosse, énorme, etc. Bon, enfin, c'était incroyable, quoi, hein. Et alors, finalement, pour ça, pourquoi? Pourquoi combattez-vous? Ben, c'est la guerre des guerres, disaient les poilus, c'est-à-dire la dernière guerre. Après ça, ben, on aura la paix universelle. Bon, on sait ce qu'il en a été. Hein. On sait ce qu'il en a été. Seulement, vous comprenez, ceux qui en sont revenus après ça, ben, se sont dit, et c'était le chant qu'on chantait sur les Champs-Élysées quand l'armistice a été signé le 11 novembre, 1914 à 11h, certains y ont vu une coïncidence eschatologique aussi, 11-11 à 11h. Bon, je laisse à ces gens-là le soin de la responsabilité, mais enfin, c'est bien possible qu'il y avait quelque chose, un signe. Et alors, la foule a déferlé sur les Champs-Élysées en chantant il fallait pas qu'il y aille, quoi. Et finalement, c'était la question après, ben, finalement, pourquoi? Quand on a vu les monuments aux morts dans les villages, les listes de noms, je voyais ça encore l'autre jour, là, quand on est allé à Radon. J'étais un petit peu en avance, le monument aux morts, j'ai lu la liste des noms là, de ceux qui étaient morts. Il y avait ça dans les temples, dans le temple de Coué, n'est-ce pas, les protestants de Coué morts pour la France, c'est la liste, n'est-ce pas, peut-être une vingtaine, dans un petit village comme ça, sur une petite communauté, n'est-ce pas, avec le verset biblique, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Discutable comme théologie, mais enfin bon. Hein. Et alors pourquoi? Finalement, pourquoi? Ah, on se dit pas pour rien. Qu'est-ce qui nous divisait des Allemands? Rien. Et plus qui plus est, c'était des chrétiens comme nous. Et ça a été un traumatisme terrible au niveau spirituel. Et ça a été un traumatisme terrible pour les pays du tiers-monde, les pays récemment évangélisés. Et je me dis, comment ces gens, ces chrétiens, qui nous ont apporté l'évangile, sont capables de s'entretuer dans une guerre civile abominable de ce type-là. Pour rien. Qu'est-ce que c'est que cet évangile? Et là, ça a été un problème avec lequel les missions se sont trouvées confrontées ensuite, qui a d'ailleurs reconduit au mouvement œcuménique. Parce que les Africains, notamment, ont dit à Edimbourg, « Mais vous avez porté l'évangile, c'est très bien, merci. Vous avez aussi amené vos divisions. Ça, vous auriez pu vous les garder. » Et ça a été une interpellation qui a été entendue. Après la Première Guerre mondiale, on s'est dit, « Ben oui, c'est vrai, ça ne va pas. » Et ça a été une des raisons de l'œcuménisme. Mais en même temps, ça a eu des conséquences dramatiques sur le plan de la déchristianisation. Comme ça avait été les guerres de religion, la Première Guerre mondiale a été ça. Et après la Première Guerre mondiale, il y a eu un formidable mouvement de déchristianisation partout en Europe. Alors, ce mouvement de déchristianisation a été tempéré par les réveils, justement. Le réveil de Pentecôte, mais d'autres réveils. Par exemple, en France, on aura l'occasion de voir le réveil de la brigade de la Drôme, dans le cadre de l'Église réformée. Mais c'était quand même plus pareil. Et comme si ça ne suffisait pas, 20 ans après, rebelote, Deuxième Guerre mondiale. Une guerre qui dépasse en horreur tout ce que la Première Guerre mondiale avait été, qui pourtant n'avait pas été triste, si j'ose dire. Mais là, on dépasse dans l'horreur tout, et notamment le conte de l'horreur, la Shoah. Et là, la Shoah, c'est le point d'orgue, en quelque sorte. Comment peut-on faire des choses pareilles? Comment des peuples chrétiens peuvent-ils faire des choses pareilles? Bien sûr, on pourrait dire, mais ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient christianisés, d'accord, mais quand même. Et alors, c'est un traumatisme pour les populations d'Europe, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, se reproduit ce qui s'était passé après la Première. À nouveau, frénésie de plaisir. Et là, donc, immoralité, débordement de l'immoralité. Ramification un peu partout, en Europe, les partis communistes qui ont participé à la résistance contre les différents occupants. Donc, propagation de l'athéisme. À nouveau, exode rural accru par les reconstructions d'après-guerre, c'est la débandade. Ça tient encore pendant une dizaine d'années, et les années 60, alors là, c'est la débandade. 60, 70, et puis le mouvement va en s'accentuant. Alors, du côté des églises, c'est aussi un terrible traumatisme, notamment la Shoah, et pour l'Église catholique, la Shoah est un terrible traumatisme qui va donner naissance à Vatican II. Avec ce qu'il y a de bon au Vatican II, on aura l'occasion de le voir. Ce qui est aussi discutable, hein, ce qui est aussi affaiblissement de la foi, parce que c'est le deuxième phénomène, c'est que l'Église chrétienne, les Églises chrétiennes, confrontées à cette mise en question, maintenant des païens devenus minoritaires, dans leur propre pays, les pays où elles étaient majoritaires, partout réduites sur la défensive, sont accusées des pires excès. Et finalement, elles sont accusées de la Shoah. Et alors la Shoah, c'est... Mais comment? Bon, bien sûr, les prélats n'ont pas pris part directement à la Shoah, encore que vous allez voir que c'est pas si simple que ça quand on va étudier cette période. Et que l'Église catholique était drôlement imbriquée avec les puissances de l'Axe. Mais bon, même en dehors de cela, est-ce que finalement c'est pas l'enseignement de l'Église, son intolérance, qui a entraîné la Shoah? Est-ce qu'il n'y a pas là une filiation entre les croisades, l'Inquisition et la Shoah? Et puis ensuite, il y a une autre interrogation. La Shoah, c'est le conte de l'horreur, le conte du mal. Et alors, le silence de Dieu, le Dieu qui se tait, le Dieu qui n'intervient pas. Pourquoi, s'il y a un Dieu, a-t-il laissé faire des horreurs pareilles? Pourquoi n'est-il pas intervenu? Et alors, c'est le cri de ce père qu'on pousse dans la chambre à gaz avec ses enfants, et qui a crié à Dieu de tout son cœur et qui, avant d'entrer dans la chambre à gaz, dit « Non, Dieu n'existe pas ». Et finalement, ça s'est repris par les foules européennes et au-delà, les foules du monde entier aujourd'hui. Si Dieu a permis ces horreurs, eh bien, c'est que Dieu n'existe pas. C'est pas possible, n'est-ce pas? Alors évidemment, il pourrait reprendre l'apologue, n'est-ce pas, de ce qu'a écrit un, qui a écrit ça, mais enfin c'est bien dit, beaucoup mieux que je vais le dire, c'est « Je suis votre Dieu, vous ne me priez pas, je vous ai donné ma loi, vous ne m'écoutez pas, je vous ai montré le chemin de la vie éternelle et vous ne la suivez pas, etc. » Puis ça continue comme ça, et ça se termine, et si vous, maintenant si vous êtes malheureux, ne m'en voulez pas. Bon, d'accord. Mais si vous voulez, pour l'homme actuel qui... pour lequel on a détruit la notion de péché, ça c'est un autre élément qui va contribuer aussi à cette déchristianisation, outre le scientisme dont nous avons parlé, c'est le freudisme. Le marxisme et le freudisme vont être les deux mamelles de la déchristianisation. Le freudisme, n'est-ce pas, qui déculpabilise l'homme, qui nie la notion de péché, finalement comme le darwinisme aussi le fait, n'est-ce pas, le darwinisme, même si scientifiquement il ne tient pas. C'est le conte de fées, comme disait Jean Rostand, auquel on s'accroche malgré tout, tout en sachant que, ça, que c'est un conte de fées, parce qu'on a décidé qu'on ne voulait plus de Dieu. Alors c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est pas grand-chose, mais enfin ça vaut mieux que rien. Alors on continue à s'y tenir, becs et ongles. Bien. Alors ce sont deux éléments qui contribuent aussi à la déchristianisation. Et pour couronner le tout, il y a les États qui rompent aussi les relations avec les Églises. C'est la France d'abord, début du siècle, 1901-1905, séparation de l'Église et de l'État. Donc, le religieux chassé de la sphère publique et relégué dans le domaine du privé. Ça, disons bibliquement, c'est assez logique. Et les protestants, nous allons le voir, ils seront favorables. Mais en même temps, ça a son revers. Si le religieux n'est plus public, n'est plus du domaine public, alors c'est que la foi devient quelque chose de facultatif dans l'esprit du peuple. Avant, il y avait les fêtes religieuses dans lesquelles on sortait les drapeaux de la République, ou de la monarchie du moins, hein, la République, même la République aussi un petit peu, la troisième en tout cas, contribue à ça. Et encore le fait un peu aujourd'hui, n'est-ce pas? Les cérémonies officielles, il y a toujours un prêtre pour bénir, ou un évêque, ou un cardinal quelconque. Le catholicisme reste plus ou moins religion d'État quand même, dans les faits, en France. Enfin, officiellement, c'est plus. Et petit à petit, tous les autres pays européens vont plus ou moins s'en rompre, toujours obligatoirement. Il y aura des concordats qui vont rester. Mais petit à petit, il va y avoir les liens entre l'État et la religion vont se distendre. Jusque dans des pays catholiques qui vont garder alors des liens très forts jusque ces dernières années. Ce sera le cas par exemple en Italie. L'Italie, après la Deuxième Guerre mondiale, là aussi il y a du champ qui est pris par rapport aux religieux. Bon, les deux derniers États d'Europe qui restent dans une vision concordataire sont l'Espagne et le Portugal qui ont deux dictatures à leur tête, la dictature de Salazar au Portugal, de Franco en Espagne. Et après la mort et la disparition des dictateurs, il y a le même phénomène qui se produit. Il y a une prise de distance du pouvoir par rapport à l'Église, même si l'Église reste prépondérante en Espagne et au Portugal. Mais elle n'a plus les liens privilégiés qu'elle avait à l'époque de Franco, à l'époque de Salazar. C'est pas... Alors tous ces éléments font que là, on peut dire que la fin du siècle se termine dans une véritable déroute. C'est une déroute pour le christianisme. Et la question qui se pose, n'est-ce pas, si le Seigneur tarde, à la fin du siècle prochain, y aura-t-il encore un christianisme quelque part dans le monde? On en est là. Alors qu'à la fin du XIXe siècle, on était au contraire dans un triomphalisme qui faisait qu'on pensait, y compris les vieux protestants, que le XXe siècle serait celui de la conversion de toute la terre. Toute la terre allait être convertie à Jésus-Christ. On avait un tel élan missionnaire partout que bon, c'était clair, on allait vers ça. Maintenant, mis à part quelques gens qui sont pas trop qui sont un peu à côté de la plaque dans certains milieux évangéliques, qui croient que le siècle prochain va être celui, grâce aux satellites artificiels et aux médias, celui de l'évangélisation du monde entier, un aperçu lucide, une étude lucide de la situation et de l'évolution, comme nous l'avons fait rapidement, nous amène à nous poser des questions. Le christianisme a-t-il encore un avenir ? On en est là. On en est là. Alors, bon, ma foi, ça, eh bien, ceux qui vivront le 21e siècle répondront à cette question. Ce sera à eux d'écrire cette histoire-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus, sur cette introduction ?